podcast.com. Essaye ça.
Mesdames et messieurs, c'est en train de se passer. Vous écoutez en background la trame sonore d'un jeu de NES, un point and click quand même assez, je dirais, emblématique de la console et du potentiel de l'époque. Ça s'appelle Shadowgate, un jeu de Nintendo dans lequel tu te promènes d'une maison à l'autre, d'une pièce à l'autre pour essayer de tuer un evil wizard qui essaye de ressusciter quoi d'autre qu'un dragon. Hein, ça peut pas passer par autre chose. Peut-être un démon, on aurait pris. C'est peut-être un démon-dragon. Écoute, on verra dans une autre émission parce que vous écoutez présentement Terrain Basique, le plus québécois des shows sur Magic the Gathering. Mon nom est Tommy Godette et cette semaine, je suis flanqué de Jason, notre sphinx. Hein, salut Jason.
Eh bien, le bonjour, Tommy. Je nous ai trouvé un invité cette semaine.
Ben oui, la crème de la crème.
Un habitué des grinders de PTQ, quelqu'un qui veut consacrer sa vie à Magic. J'ai été très impressionné. Juste pour faire, avant qu'on dise son nom, je me suis amusé dans son rooster. Là, je vois qu'il a commencé sur la scène pro en 2000, autour du début des années 2000, là, 2001. Il a été au Pro Tour de New Orleans en 2003. Il s'est qualifié pour le Pro Tour en 2005. Il en a fait aussi celui de Dark Ascension en 2011 ou 2012. Il a fait le top 8 au Grand Prix Montréal en 2015, top 8 au Grand Prix Montréal en 2018 et un top 8 au Grand Prix Montréal de 2019. Il va tout nous parler de ça ce soir. C'est Martin-Éric Gauthier. Comment ça va, mon ami?
Ça va bien, vous autres?
Chaque jour est un cadeau, mon chum.
Ça brasse. Yes, c'est ce qu'on se dit.
As-tu vu la feuille de route après ça, toi? C'est
quoi? Un gros CV, hein?
Ah oui, t'as survécu à plusieurs morts de Magic the Gathering. Comment tu vis ça?
Moi, ça fait tellement longtemps que je joue. Là, j'ai commencé, j'avais 11 ans. Là, 25 ans plus tard, ça me rajeunit pas sur la scène de Magic, disons.
OK, fait que t'as mordu dedans au début, toi, quand tu dis 25
ans. Ça fait tellement longtemps, là, j'ai la misère à me rappeler.
OK. Mais t'es pas de ceux qui est revenu, là.
Non, moi, ça, j'ai pas lâché. Là. Si j'ai arrêté 6 mois, là, ça, c'était une grosse grève. Là.
Hein? Genre, t'étais choqué après, là, je m'y joue agité. Fait que t'as dit, si d'équipement trop fort, I'm out. Là,
puis
là,
ah ouais, c'est ça. Moi, disons que le seul bout que je peux me rappeler que j'ai arrêté un petit peu, c'était dans le temps de Lorwyn. Ça, c'était un petit peu flou dans mes souvenirs. Sinon, j'avais pas bien lâché, là, je te dirais.
Oh boy, hein, un warrior. Nous autres, c'est pas mal une constante, je dirais, sur les invités qu'on reçoit. Il y a tout le temps un moment donné où il y a comme une pause, là. On a tous fait des gaffes de vendre des cartes qui valaient 3 piastres puis qui en valaient à 400, ce genre de patente-là. Toi, tu gardes ta collection depuis le début?
Non, j'ai pas mal. Moi, j'ai pas mal dealé du Magic dans ma vie. Là. J'ai acheté, j'ai surtout vendu. Je dealais du Magic quand j'étais jeune. J'ai acheté une grosse collection, j'en ai vendu. J'ai acheté des Power 9, j'ai vendu du Power 9. J'en ai de l'histoire avec ça. Là. Ah, j'ai même une histoire de Lotus à une pièce.
Oh boy, yeah! OK, fait que t'es pas juste un joueur, t'es aussi comme quelqu'un qui aime toute la patente, dans le fond, le collectionner, le vendage, le trade, ces affaires-là.
Ah, je te dirais que quand j'étais jeune, là, c'était une manière de faire du cash. Là. J'en ai roulé du Magic là, avant que ce soit le monde virtuel là, puis que le prix, ça soit partout la même chose. Là. Ah. Le monde, ça tradait, ça l'échangeait, puis ça, on faisait bien de l'argent avec ça.
OK, hein, pas requin, par contre, t'es pas allé...
Oh, requin.
Oh, oui!
quand t'as 12 ans puis tu veux faire de l'argent, tu t'arranges.
Ouais. Oh, c'est fair enough. Fait que pourquoi ça a été, je dirais, entre guillemets, long comme ça, avant que tu commences à faire de la compétition?
Ah, j'ai pas... Si vous avez, vous, les dates de 2001, mais de la compétition, là, j'ai commencé bien avant ça. Là,
ah, t'sais. OK.
Mes premiers gros résultats, ça veut dire, ça nous amène à... J'avais 15 ans... Non, 2000. Ouais, 2000 avec le Junior Super Series.
OK.
Et ça, vous n'avez peut-être pas trouvé ça, là, mais c'était des championnats juniors. Que c'était une compétition qui était juste pour les 16 ans et moins.
OK.
Il y avait une année...
Au Québec, c'est ça?
En 99, j'étais arrivé deuxième. Le premier prix, c'était 1 000 $, mais c'était de la bourse d'études.
Oh, ça, c'est pendant le Urza Saga, là.
Ouais, on remonte à Urza Saga puis Mercadian Mask.
Ouais. Ah oui. Oh, Mercadian Mask, un jour, on va l'avoir, l'histoire de ce monde-là, hein, Jason?
Un jour, mais pas maintenant.
Sinon, as-tu une couleur préférée, une dynamique que tu préfères?
Disons le bleu. On va y aller pour la couleur du contrôle. J'ai toujours été un joueur ou contrôle ou combo. Un des deux. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup. Mais l'aggro aussi, mais c'est le mid-range. Ce n'est pas mon genre. Là, qu'il est le blanc, le vert. Ce n'est pas trop mes couleurs, disons.
OK. Bon, on va se ressembler là-dessus, c'est sûr et certain. Tu as choisi déjà ta carte de la semaine, mais peut-être un archétype, là, dans le sens, là, tu as parlé contrôle. Est-ce que, mettons, tu es plus Merfolk ou tu es plus les nouveaux zombies bleus? Y a-tu un deck présentement que tu aimes jouer plus qu'un autre?
En ce moment, je joue pas mal sur le moderne, je te dirais.
OK.
Je joue moderne, je joue un petit peu de tout, là, mais disons, comme j'ai gagné pas longtemps avec un deck combo, sinon, tu sais, le deck de marteau ou des decks avec des
Renegades. Hammer Time.
Des Ferry, ouais, ben des
c'est blanc, ça.
Ben OP, là, on aime ça quand c'est puissant.
C'est quoi ça, le marteau? C'est l'affaire plus 10. Plus...
C'est le Colossal Hammer, là, puis là, bon, tu le cheat avec un ornithopter, là.
Ah! Ben oui,
là, c'est des affaires pas cachères.
Exact. Toi, t'es un sans pitié, là, parce que on voit sur ta feuille de route, tu joues pour gagner, mm-hmm. puis ta feuille de route, là, c'est des tournois où tu gagnais du money, là.
Ouais, quand j'étais jeune, ça roulait, là, tu sais, l'argent, on roulait pas sur l'argent dans ma famille, là, avec le dealage de cartes, gagner, puis des fois, j'ai abandonné des finales de gros tournois pour faire un 200$ de plus, là. C'est ça, à un moment donné,
comment t'es rentré dans Magic? Comment t'es rentré dans Magic?
Moi, j'ai commencé avec mes amis, c'était à l'école primaire, que là, tu vois à quel point ça remonte loin, là, c'est fin de sixième année, mes amis avaient commencé à jouer. Je savais pas trop comment ça marchait, mais ils m'ont donné quelques cartes pour commencer. Puis c'est ça, que j'ai commencé avec ma première carte que j'ai achetée. C'était un Colossus of Sardia.
Oh yeah, man.
C'était gros 9-9 pour 8 mana là, qui donne tape pour 8. Là, c'est ça, c'était la grosse affaire. Là, puis ça m'avait tout coûté mes cartes là, pour la ramasser.
Oh boy, mais ouais, c'est vrai que c'est quand ça a longtemps été le monstre le plus gros de toute la patente. Là. Ça, c'est assez capoté.
Ouais, quand tu comprends pas comment marche le jeu, tu y vas pour qu'est-ce qu'il y a de plus gros. Tu te dis, hey, 9-9, ça doit être bon, mais quand tu lis la carte, finalement, c'était pas le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie.
Non, ça a pas super bien vieilli.
T'as grandi dans. Je pense qu'on peut se servir de cette expression-là. T'as grandi dans quel magasin?
Ah, j'ai grandi, moi, les deux magasins de ma jeunesse, c'était sur la rive sud de Montréal. Donc, il y a eu au début, ça s'appelait la boîte à BD, qui est devenu ensuite le Comic Rive Sud, qui a déjà
une d'années. Ah, ben oui,
oui, ouais, l'autre magasin qui était juste à côté dans le temps, c'était comme la guerre entre les deux magasins, ça s'appelait L'Abîme.
OK. Ah, OK.
Ça, c'est lui qui a perdu la guerre parce qu'il est plus
old
là.
School, là. Ça doit être fermé depuis 20 ans.
Voilà, il reste juste comme écrit ça, à cette heure.
Ouais. Il est encore là.
Non, oh, j'ai joué des games là, moi. J'ai habité un bout à Longueuil. Mm-hmm. Mais, OK, ça, c'est cool. Fait que, non, c'est le premier invité, je pense, qu'on a qui est. On a eu Raphaël Lévy, mais tu sais, lui, c'est qu'un cas particulier, là, mais généralement, c'est ça. Et tout le monde fait comme une pause au milieu des années 2000 à peu près. Là, toi, t'as jamais lâché. Peux-tu nous raconter, dans le fond, parce que là, je vois que pas mal tout ce qui est à, je dirais, 10 heures de char de Montréal, t'es allé.
Oui, on s'est pas mal.
Pas mal la côte est américaine puis le Midwest, là, t'es promené pas mal. T'as-tu une anecdote de road trip? Qui vaut la peine d'être raconté.
Ah oui, ça.
All right, ouais, moi j'en ai une, là, celle-là, elle est pas mal juteuse. Là. J'étais parti en voyage avec. Je vais name dropper du monde. Là. C'était Mauro Bongiovanni. Il y avait Christian Rochon, qui les reste en paix. Il y avait Pasquale, moi, puis une cinquième personne. La cinquième, je ne me rappelle pas. On était sur le chemin de Rochester, donc qui est à New York, qui est environ, c'est pas trop loin, là. C'est comme 5 heures et demie de route. Puis c'était l'hiver. Puis on a pogné une plaque de glace, puis on est sorti de la route. Puis on n'a pas eu un accident grave, mais on était dans le fossé, puis il fallait attendre la remorqueuse. Ça a été assez stressant et tout, mais...
On s'en allait à un tournoi, là.
Ouais, on s'en allait vers le tournoi, c'est ça. Puis c'est Moreau, il a été trop vite, puis on a pogné la plaque de glace, on a sorti. Puis là, on attendait la remorqueuse, puis mon ami, il a eu la bonne idée d'aller, il avait envie, beaucoup de stress, qu'il a décidé qu'il pissait. Mais il a pissé contre le vent.
Oh non!
Il s'est tu, le pauvre gars. Là, on riait tous de sa gueule, puis on s'est tous enfermés dans le char, puis on a fermé les fenêtres, puis on riait de lui parce qu'on ne voulait plus le laisser rentrer.
Il y a de plein de pisses, ton bélier.
C'était des souvenirs qu'on a.
Il avait-tu amené du linge de rechange? Il avait-tu du linge de rechange?
Ah ouais, on avait du linge. On était parti pour une couple de jours, mais la morale, c'est qu'il ne faut pas pisser contre le vent. C'est des morales de vie comme ça que tu apprends.
Et puis en plus, tu s'en allais faire un tournoi d'un jeu de stratégie, il me semble. C'est comme, tu fais pas de lightning bolt contre un monstre 1-1 au premier tour. Genre, c'est ce genre de patente-là. Il y a des stratégies qu'il faut mordre. Là. Sinon, ben, tu as parlé de Pasquale. C'est-tu Ménard, ça?
Non, c'est Pasquale. Okay. Disons, les autres aussi, là, c'est du monde qui existe, qui joue à plus ou moins là, dans les dernières années, là, mais dans le temps, c'était la grosse clique. Là, disons que je sors des noms. David Rude, Pasquale.
Les gros joueurs de Magic québécois des années 2000.
Oui, les gros joueurs. Là, c'était vraiment... On était des terreurs quand même dans ce temps-là. Là, le monde, c'était sérieux, là, le Magic.
Ben oui, ben oui. Ben,
il faudrait que tu nous présentes ce monde-là. Là.
C'était les meilleurs au monde. On avait vraiment une scène très compétitive. Là. On avait des joueurs qui étaient vraiment de calibre mondial, qui se battaient vraiment les PTQ, puis le Pro Tour, puis il y a eu des top 8. David Rude a gagné 2 Pro Tours. C'est du vrai monde. Là. C'est du sérieux, ce monde-là. Là.
Ah, c'est cool.
Là, t'sais, avec les années, le poker, ça l'a beaucoup fait changer les personnes qui ont beaucoup bougé à ça. Puis sinon, c'est sûr, avec les années, le monde, c'est ça. Il y en a qui ont continué, mais je te dirais que je suis pas mal un des derniers. Un des derniers guerriers là, qui a jamais arrêté.
Combien de temps tu mets à peu près, mettons, là ça a beaucoup changé avec Magic Arena, puis toi je pense que t'es beaucoup plus Magic Online, je pense.
Ouais, pas mal Magic Online.
Fait que tu sais, c'est beaucoup plus facile à ce temps, tu peux popper une game là, quand tu veux, là, tu sais, t'es sur la balle, tu pars une game, tu sais, pour te pratiquer. Là. Mais tu sais, mettons, là, tu veux te qualifier pour un PTQ, pour aller à un Pro Tour, back in the days, il fallait que tu t'allais au magasin puis tu te pratiques en masse, right?
Ah ouais, c'est
sûr. Une équipe, les joueurs venaient chez vous, puis OK, on teste les decks.
Raconte-nous ça. Ça a été vraiment ça. Moi, je te dirais que ma force a toujours été le limité, là, que c'est beaucoup les drafts Magic Online, puis tu sais, c'est difficile de trouver des partenaires pour tester, là, tu sais, j'ai pas cette gang-là autour de moi. Là,
fait que toi, c'est vraiment le Magic Pro, c'est les drafts puis les seals.
Ouais, moi, c'est ma spécialité, là. Moi, j'ai été, ça a été mes plus gros tournois, ça a été Seal Deck. Draft, moi, ouais, j'ai sorti j'ai sorti fort, là, une couple de gros tournois, tu sais, les Grands Prix.
Ouais, t'es top 8, ouais.
Les Grands Prix, c'était 3 Seal Deck. Le Mox que je me suis qualifié pour, c'était en Seal Deck. C'est ça, c'est ma spécialité vraiment.
Juste pour nos auditeurs, là, le top 8 t'as fait au Grand Prix de Montréal 2015, c'était un Seal de Dragon of Tarkir. Ouais. J'étais là et j'ai fini vraiment loin de toi. après ça, en 2018, c'était un Seal de Guilds of Ravnica. C'est notre premier épisode de Terrain Basique, on l'avait fait là-dessus d'ailleurs.
Ouais.
Puis ton Seal en 2019, ton autre top 8, c'était Eldraine.
Yes.
T'en as-tu d'autres que j'ai raté des top 8 de grand prix?
Disons, mon gros tournoi, là, c'était mon top, mon seal deck de Double Masters Magic Online. Ça, c'était mon money shot, là, je te dirais. Là. Je vais pouvoir vous montrer le deck un peu plus tard, là, mais c'était de quoi? Là? Double Master, 2 rares par paquet, c'était quand même quelque chose de spécial.
Effectivement. T'as-tu des trucs? Parce que, mettons, t'es un pro de seal, de draft, des affaires, des règles que tu t'imposes quand il y a le temps de te monter un deck comme ça, peut-être?
Oui, il y a une couple de guidelines qui sont faciles à suivre. C'est sûr que c'est surtout la mana base qui est vraiment l'important. Là. Essayer de voir, bon, des fois, tu es obligé de jouer 3 couleurs. Les derniers sets, ça a été beaucoup du 3 couleurs. Donc, essayer d'avoir des mana base, couper les doubles costs quand tu peux pas. T'sais, la mana base, ça va être la base de qu'est-ce qui va te faire que tu vas gagner ou perdre.
Ça, c'est tu parles la curve là, ou vraiment tes choix de couleurs?
C'est ça. Tu regardes, tu ouvres ton seal deck, tu checks son où tes rares. Est-ce que tes rares sont de la même couleur? Ça va te donner un indice. Est-ce que les rares sont jouables? Oui, OK. Que là, tu vois, est-ce que ça fonctionne de cette façon-là? Après ça, tu checks ta mana curve. Est-ce que tu as des 2 drops? Si tu n'as pas de 2 drops, là, tu n'as pas d'early game, tu es dans le trouble.
OK.
Essaie de trouver où est-ce que tu peux avoir quand même des cartes qui ne coûtent pas trop cher. Essayer de suivre une belle curve, c'est comme ça. Tu y vas avec un drop, pas beaucoup d'un drop, beaucoup de 2 drops, beaucoup de 3 drops, beaucoup de 4 drops, puis tu finis avec quelques 5 drops, 6 drops, tout est bon. Les grosses cartes qui coûtent cher, mais qui gagnent la game.
OK. OK, c'est des bons trucs.
Tu y vas avec 40 cartes, t'essaies de te discipliner, t'essaies de jouer tes 40 cartes, pas 41, pas 42, tu joues entre 15 et 17 lands.
Ça, c'est du basic, Martin, là. Mais ça, on le répète constamment sur le show, là. Mais va un peu plus.
Mais pas pour le sealed, attends un peu, là. On n'a pas souvent parlé de sealed.
Ah, c'est vrai, c'est vrai.
On parle
c'est
souvent vrai. De draft, mais là, c'est des trucs de sealed qu'on vient d'avoir, là.
C'est ça. Comme, tu sais, mes sealed decks, quand que j'ai fait bien, il faut au moins que tu joues 3 rares, là, 3 ou 4 rares, là, pour pouvoir faire un bon jour 1, là. Disons que tu veux que ton sealed deck, il performe, là. C'est ça. Tu essaies okay, de hein? voir, puis tu te concentres sur tes rares, puis. C'est là. Ça, tu sais, des fois, que ça soit Niv-Mizzet dans mon style de Guild of Ravnica, j'avais le Dragon Lord bleu-noir dedans celui de Tarkir, puis dedans celui de Eldraine. Je me rappelle pas trop. Ah oui, j'avais le démon, le 6-6 pour 5 que tu peux surveil. Tu comptes sur tes bombes, tu essaies de les jouer, puis tu essaies de trouver le reste des cartes pour essayer de combler les trous. Là.
De survivre jusqu'à temps qu'il soit là. Puis là, ben, toi, en fait, parce que quand que tu achètes, moi, je me rappelle, on est allé faire un seal à l'Abyss, notre magasin affilié récemment, récemment, avant la pandémie, et dans un petit pamphlet qu'ils donnaient, ils disent un bon seal deck, ça a 2 couleurs, puis blabla, mais toi, tu es en train d'exploser ce cadre-là. Toi, tu dis, si tu as des rares qui ont juste comme un bleu dans le casting cost, ben tu peux rajouter du bleu dedans pour greffer cette rare-là à ton deck.
Yes, il faut toujours que tu y ailles pour la puissance. C'est la puissance le plus important, puis après la stabilité aussi, c'est très important, mais la puissance, il faut que tu aies des cartes qui peuvent gagner des games. Okay. Parce que ça va t'arriver que tu vas mollégainer à 5, mollégainer à 6, puis que là, si tes cartes sont de très bonne qualité, ça va te donner une chance de gagner.
OK, OK. Puis là, toi, en plus, t'as pas peur des mulligans en débutant là, jusqu'à 5, là.
Quand il faut, là, c'est ça. Si t'as des cartes qui peuvent te permettre de gagner, il faut que tu donnes le plus de chances possible parce que si tu gardes des mains qui sont pas bonnes, tu gagneras pas plus.
T'as-tu une anecdote que t'es descendu vraiment bas?
Moi, j'ai une anecdote. Disons, une des anecdotes, ma meilleure anecdote, c'était en finale d'un PTQ, puis j'avais gardé une main on the draw de un land. J'avais besoin de piger.
T'avais un land dans ta main, puis c'est comme ça que t'as commencé la game.
Ouais, j'ai commencé avec une main d'un land, puis j'y ai pensé longtemps, puis j'ai dit à tout le monde, tout le monde me regardait, puis c'était pour aller à Hawaï en plus.
Ça, c'est pré-London Mulligan, là.
Ouais, c'était pas encore le London à ce moment-là.
C'est ça. Est-ce qu'il y avait celui avec le Scry, là, le Vancouver, ouais, qu'il appelait, là?
Tu pouvais Mulligan à 6, puis tu pouvais Scryer, c'est ça. Que j'ai regardé la
t'as
main.
T'as gardé un land.
J'avais un land, puis j'ai pas le choix, je le garde.
Puis t'as gagné?
Ouais, je l'ai gagné, puis j'ai été joué à Hawaii, man. Que ça, c'était tout un. Ça, c'était. Parce que, tu sais, l'autre, il y avait un deck meilleur que moi, puis, tu sais, t'as une main, j'avais 2-2-2 pour dans le blanc qui coûte 2 blancs, puis j'avais une plaine dans les mains, puis j'ai fait, faut que je pige la plaine, puis j'ai prié, puis je l'ai pigé la plaine. Que ça a été payant.
Ah, c'est cool. Ben oui, Hawaii, ça a été un beau voyage, ça. C'est eux autres qui t'ont payé ça parce que c'était toi le meilleur.
Ouais, c'est, je l'ai mérité, disons. Ouais, c'était moi le meilleur, ça, oui, mais.
Le proto était à Hawaii.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Il payait le billet d'avion pour aller jouer à Magic à Hawaii, ça devait être quelque chose.
C'était super cool, là, tu sais, au soleil. C'est vraiment. C'est ça, c'est les voyages de Magic. C'est ça qui est le fun des tournois compétitifs, c'est que ça donne une raison de voyager. Tu gagnes un tournoi, puis là, tu te dis, ah, je vais aller jouer à Hawaii, ou je vais aller jouer à Bruxelles, ou je vais aller jouer n'importe où aux États-Unis. Je me suis promené à travers le monde à cause de ça.
Tu es allé en Europe?
T'es-tu capable?
Ouais, j'étais en Europe une fois, c'est ça. C'était ma première fois l'année passée. Juste un peu avant la pandémie, là, j'ai été à Bruxelles.
T'es-tu capable de. Parce que quand même, tu t'en vas faire une compétition, mais t'es-tu capable de mettre ta Switch à off puis de profiter du voyage aussi en même temps?
Ouais, c'est ça. Il faut que
tout le monde
que
est capable.
C'est ça, faut que tu profites du moment. C'est sûr que des fois, quand ton tournoi va moins bien, puis t'as comme une période de transition que là, t'es comme, ah, sti, puis là, j'aimerais ça être chez nous, mais là, il faut que tu passes à travers de ça, puis tu dis, ah, sti, j'ai pété un voyage, puis j'ai eu du fun, puis tu sais, la prochaine fois, ça ira mieux, tu sais. C'est comme ça que ça marche Magic.
J'aime bien gros ça. Écoute, Martin, Eric, je pense qu'on comprend le personnage un petit peu. On a les spécialités, la couleur préférée et le reste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la carte de la semaine. Puis au retour, en dernier bloc d'émission, ben, c'est toi qui vas prendre le contrôle de l'écran et tu vas nous faire visiter des setlists ou des articles que tu as écrits dans le passé. Merci bien gros de te prêter au jeu de terrain basique. C'est très apprécié. En attendant, on s'en va à la carte de la semaine. C'est une présentation, comme à chaque fois, de notre magasin affilié, l'Abyss, www. labyss.com. Vous essayerez le code promo TB2021 et vous aurez 10% de rabais sur tous les produits scellés. Là-dessus, on écoute le beat à bone. Et comme le veut la tradition, hein, on a un invité de marque et on lui a demandé de choisir la carte de la semaine cette semaine. Il est allé dans un set hein, duquel on a beaucoup parlé. Il y a plusieurs personnes qui avaient hâte que ce set-là s'en aille. Hein, ça nous a amené de la nourriture. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je suis un fan de chevalier. Je suis un fan de zombies. Il y avait un petit peu de tout ça là-dedans. Parle-nous de la carte que tu as choisie, mon cher Martin-Éric.
Yes, j'y étais pour une carte qui est chère à mon cœur parce que c'était mon first pick dans le top 8 du Grand Prix de Eldraine. Donc, j'ai choisi The Great Henge. Donc, une Great Henge qui est une carte très puissante.
Hey, si tu permets, Martin, je vais juste la décrire parce qu'on a qui nous écoutent seulement audio. Great Henge, c'est 7 colorless 2 verts pour un artefact légendaire. Il te coûte X de moins à caster par le plus gros power de ta créature que tu as. Par exemple, si tu as une créature qui a 4 de power, il va seulement te coûter 5. C'est ça, 7, 5, ouais. Puis tu peux après ça le taper pour faire 2 mana verts et gagner 2 de vie. Et chaque fois que tu as une créature non-token qui rentre sur le battlefield sous ton contrôle, tu mets un +1/+1 counter dessus et tu piges une carte. Vas-y, explique-nous pourquoi cette carte-là est importante.
C'est ça. Donc, c'était quand que j'ai ouvert mon paquet dans ce tournoi-là, puis j'ai ouvert le Great Henge Foil avec mon étampe, que c'était un petit peu une carte qui est devenue chère à moi.
C'était au Grand Prix, hein?
Ouais, au Grand Prix. C'était mon first pick de mon draft de top 8, puis c'est une carte qui est restée chère à mes yeux. Je trouve que ça représente bien une carte qui est puissante, qui représente une attaque très puissante contre ton adversaire parce que toutes tes créatures maintenant te font piger des cartes, te donnent des +1/+1 counters, ça gagne des vies. Donc, une carte qui peut complètement débalancer une game tout d'un coup directement.
Oui, vraiment. Juste le +1/+1, c'est sympathique. En plus, tu piges une carte over the top, là, ça cumule rapidement. En plus, c'est sympathique de gagner 2 d'énergie. Elle te fait tout. Tu as du mana, de l'énergie. Tes monstres sont plus forts, puis tu piges des cartes.
Et ça, c'est un bon finisher. Là. Moi, je joue beaucoup Stumpy. Ben, plus maintenant, là, mais à l'époque d'Eldraine, je jouais beaucoup mono vert Stumpy, puis je mettais 1 ou 2 Henge. Quand elle sort, là, tu swings la game. Tu sais, t'es très bon en vie. Puis là, il te donne le mana que t'as besoin, parce que le card draw que t'as besoin. C'est vraiment un couteau suisse, cette carte-là. C'est vraiment impressionnant.
Oui, ça a été une carte totalement dominante dans le format standard, qui était bonne dans le deck rouge-vert, qui en abusait beaucoup avec Lovestruck Beast, par exemple. Oui. Donc, une carte qui faisait complètement dégénérer la partie. Donc, c'est une carte que je vais garder dans ma collection, qui est un souvenir un peu de ce tournoi-là, comment ça s'avait passé, et une carte que je vais garder toute ma vie parce que je trouve que ça représente bien.
C'est comme ton totem de la journée, là. C'est ton totem de cette journée-là, là.
Ouais, c'est ça. Il y a des cartes comme ça que tu peux pas te désattacher, là, que même si tu vends toutes tes cartes, là, tu dis celle-là, tu peux la garder, l'encadrer, puis la mettre comme souvenir, puis tu peux la garder toute ta vie, puis t'es juste content, puis ça te rappelle ce moment-là que t'as vécu.
As-tu essayé de la runner dans d'autres formats que standard?
Non, pas vraiment. T'sais, c'est une carte qui est un peu plus Commander. Moi, je suis tout Commander, sauf Commander. Là. Moi, je joue avec compétitif. Là. Moi, ça la donne pas les autres formats. Là. À part en standard, que c'était vraiment très puissant. Puis en Commander, c'est une carte qui n'est pas assez puissante pour les autres formats. Peut-être, oui, je l'ai joué en pionnier.
Pioneer,
en pionnier avec Karn. The Great Creator, que si tu joues le Karn dans ton main deck, tu peux jouer un Great Henge dans ton sideboard. Que oui, je l'ai utilisé cette fois-là quand je jouais le deck qui était en pionnier là, de Karn, là, qui était très puissante encore. Tu vas la chercher dans ton sideboard, puis ça peut encore là, dégénérer une game complètement.
C'est cool.
Damn, slack, hein?
Je vais faire la. Shit, hein? Toi, Tommy, t'as-tu déjà essayé cette carte-là? Tu l'as-tu pogné dans un draft?
Ben, je pense que je l'ai, mais j'ai jamais joué avec. Je suis pas très vert. Moi, quand que je fais des decks, mettons qu'il y a du vert dans un deck, tu sais, d'habitude, c'est un. c'est comme la couleur support, là, tu sais, mettons, ouais. J'ai pas de deck vert pur, là, c'est...
Ça, c'est un bon ramp, là. En tout cas, dans les drafts de Eldraine, ça allait super bien, puis dans le standard de l'époque. Je vais faire une petite minute de lore pour ceux qui se demandent, là, l'histoire de c'est quoi le Great Henge. Vous remarquerez dans les Basic Forest de Eldraine, y a beaucoup des menhirs, hein. On est très dans le bon vieux menhir celtique. Puis, dans le fond, c'est dans la forêt d'Eldraine. J'en avais déjà parlé, c'était nos épisodes 49, où ce que je faisais le Lord Eldraine. T'as comme le monde des chevaliers, là, qui est le monde matériel. Puis, il y a une espèce de dimension parallèle qui s'appelle le Wild. Puis, Great Henge, hein, c'est une peinture. C'est comme une genre de peinture de porte. Puis, ce qu'on voit, dans le fond, sur l'image, c'est un portal à travers un des menhirs qu'on avait vu sur les Basic Forest, là. Puis, à travers ce portal-là, tu peux rentrer justement dans le monde des elfes puis des fées. Fait que, tu sais, c'est un peu là, comme l'endroit où il passe. Puis, dans le storyline d'Eldraine, c'est là que le fameux Planeswalker Garruk utilise ce portal-là pour aller voler le Cold Run là, qui permet de se débarrasser de la curse que Liliana lui a mis. Vous retournerez voir nos vieux épisodes d'Eldraine. Là, j'avais tout expliqué ça, mais c'est pas mal cool comme carte. Là. Moi, j'aime beaucoup qu'ils prennent les hearts des Basic Lands puis qu'ils relient à des artefacts légendaires. Tu sais, c'est très deep, Magic.
Oui, c'est vrai. Ben, ça a été un set quand même assez intéressant, celui-là. J'espère qu'ils vont y retourner dans cet univers-là des... Des espèces de personnages fantastiques de
contes de fées.
Voilà.
Contes de fées, mais dark, c'était cool. Ils ont réussi ce qu'on n'a pas réussi avec Lorwyn, en fait.
Ben, c'est-tu quoi? Moi, je pense que les contes de fées, ça a tout le temps été dark avec Disney s'en occupe. Ça, ouais. Souvent, le monde, il mourait pas mal. Fait que, ben, merci beaucoup, Martin Rick, pour cette carte de la semaine. Très, très relevée comme choix. On aime ça comme ça. Là-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au beat à bond un instant et ensuite, c'est notre invité qui prend le contrôle pour nous montrer la magie. Quand tu veux, mon chum, Martin Eric in the house de Gauthier Machine.
Yes, je suis en train de vous sortir tout ça. Là. Je vous ai sorti des bons souvenirs là, du bon vieux temps. Là,
c'est en direct instant. De Noël. Ben oui, parce que là, toi, t'as joué du Magic sans s'asseoir puis sans brasser de dés ou sans piger de cartes. Toi, t'as joué du Magic en vendant et en spinant autour. Et t'as fait aussi des articles sur le sujet.
Oui, exactement, c'est ça. J'essaie de vous trouver ça. Là, j'ai utilisé la Wayward Time Machine. J'ai été rechercher ça de très, très loin, disons. Là. J'ai été chercher. Dans le temps, ça c'était le Carta Magica, qui était vraiment le magasin le plus important, disons, que toute la communauté de Magic tournait autour. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est quand on était un petit peu sponsoré par le magasin, puis on écrivait des articles.
Nice.
Vous voyez, là, j'en sors ici des listes, donc on écrivait des articles. Ici, mon ami Louis Boileau, quand il avait été joué au Worlds. Il y avait ici le monde quand on jouait un PTQ, qu'on faisait super bien, on écrivait des articles. Donc, on avait une scène qui était très comme ça, ouverte, puis on aimait ça parler de nos histoires, puis raconter comment ça se passait. Donc, c'était assez spécial. Donc, moi, dans ce temps-là aussi, j'écrivais des articles. Le Carta Magica avait organisé un tournoi spécial d'invitation pour les meilleurs du Québec. Il y avait vraiment une scène culturelle de Magic qui était très intéressante, là, comme c'est ça. Compte rendu estival à la Meg. J'avais écrit des articles, puis c'était comme une communauté qui était comme ça.
C'est quoi la Meg?
Écrire des articles.
On vient de découvrir ton surnom, là. Toi, t'étais Meg.
Ouais, c'est ça. C'est le mec qui vient de mes initiales, Martin-Éric Gauthier.
Oh, ouais.
C'était un joueur de Magic qui m'a donné ce nom-là, là, qui m'a suivi pendant toute ma carrière de Magic.
T'as-tu déjà affronté des gros noms dans les protos?
Ouais, j'ai touché du dur, là, c'est sûr. Là, des fois, là, t'es comme impressionné. Là. J'ai pas joué contre les meilleurs de tous les temps, là, tu sais. Comme au championnat de le dernier championnat, pas Strixhaven, celui d'avant, pas Kaldheim, Celui d'avant.
Zendikar Rising?
Ouais. J'avais sorti cette fois-là, j'avais vraiment monté un deck historique, genre out of nowhere. Là. J'avais vraiment patenté de quoi. Puis, tu sais, habituellement, tu sais, j'essaie de trouver une decklist. Puis, cette fois-là, j'avais vraiment sorti mon deck. Là. Je l'avais créé.
Ouais, ton brew, là.
J'avais trouvé toutes les cartes. Puis, là, tu sais, tu joues contre du monde comme LSV. Puis, là, t'es comme, OK, c'est bon, là. Je vais te montrer de quelle voie je me chauffe, là. Puis, ça l'avait bien été. C'est un de mes.
T'avais joué contre LSV?
Ça l'a bien été, là, quand même.
T'avais joué contre LSV?
Ouais, j'avais battu LSV, là, ça avait bien.
T'avais battu LSV? Hein?
En plus, avec
ton deck. Faut pas que tu te fasses impressionner, là. C'est pas parce que le gars, il a un bon nom, là.
Non, je comprends très bien ça. Je comprends très bien ça, mais tu sais, comme, si tu veux dire, tu peux quand même mettre sur ton mur en arrière un LSV empaillé puis dire, regarde.
C'est vrai.
Avec un deck de brew que t'as pas pris sur Internet.
Ouais, non, c'est ça. C'est quand
tu partais avec un handicap, là.
Non, ouais, c'est sûr. Tu y vas, mais des fois, à un moment donné, c'est ça. Moi, j'ai jamais été un gros constructeur de deck. Je suis quelqu'un, je suis plus un pilote. Je suis pas un compositeur, mais je suis un interprète. Ouais, je vais voir un peu comme ça. Là. Comme je me rappelle, là, je vais vous montrer une decklist. Ça, c'était mon proto New Orleans.
Oh, Psychatog!
On est de ressortir ça, que je jouais le deck de Psychatog, qui avait été le gros powerhouse en standard, qui était dans le temps du type 2, qui avait été le gros powerhouse, puis ça, c'est un tournoi extended.
Fait que ça, c'est Psychatog, là, juste pour les gens, c'est un petit rappel rapide, là, c'est un 2, un Atog, un colorless, un bleu, un noir. Tu discartes une carte de ta main pour y donner +1/+1 until end of turn, puis tu peux enlever deux cartes de ton graveyard pour y donner +1/+1. Fait que ça, dans le fond, c'est que tu vas discarter tes mains, le mettre dans le graveyard pour éventuellement faire une attaque avec ton Psychatog. On voit ici, il y a trois seules créatures dans son deck et c'est les Psychatog. Tout le reste, c'est du Counterspell. On voit le Counterspell, Brainstorm, Force Spike, Mana Leak, qui est vraiment gosseux, là.
Il y a deux Isochron Scepter pour Counterspell et plus.
Ça venait de sortir. Ça, ce tournoi-là, c'était Mirrodin qui venait de sortir et c'était Tempest en montant, que de Tempest à Mirrodin, que tu n'avais pas le droit.
Ça, c'est Extended, là, c'est l'ancêtre de Modern.
Ça avait été de quoi? Puis, tu sais, j'avais joué dans ce tournoi-là un deck, ça, c'était comme un deck fair, mais le monde avait sorti des decks, là, c'était. Ça avait été tout un tournoi. Là. C'est le tournoi qui avait. Le gros deck qui était sorti dans le tournoi, c'était avec le Goblin Charbelcher, qui venait de sortir dans ce set-là. Puis il s'arrangeait d'enlever tous les decks de laine de son deck avec une carte qui coûtait 2, puis là, il te faisait un gros coup de Charbelcher d'une shot. Imagine-toi un tournoi où ce que Tinker était légal.
Non, ouais, c'était pas sain, là.
Tinker, ouais.
Mais c'est ça que je jouais plus à Magic dans ce temps-là, là. C'était trop pour moi.
Magic était mort.
Ouais. Mais Nouvelle-Orléans, c'était comment le crowd là-bas de Magic?
C'était quand même, c'est ça, c'était, il y avait eu une histoire là-bas qu'il avait publié les decklists à la fin du premier jour. Puis là, il y avait des personnes qui savaient plein. Puis là, à chaque ronde, tu pouvais aller voir la decklist de ton adversaire. Que tu savais déjà contre quoi tu jouais. Puis là, tu arrives à la table, puis là, tu fais « Oh non, pas encore. » Là, tu vois les decks des autres. Puis là, ça joue des City of Traitors, des Sphere of Resistance. Puis là, t'es comme « Aïe, aïe, aïe. » C'est ça. Okay? Ici, ça l'avait été relativement bien quand même. J'avais fait jour 2. Mon jour 2, ça s'est moins bien passé, mais c'est ça. Il m'avait manqué la tech de ce deck-là. C'était que le monde, il se plâchait pour Fire Ice. Avec les Isochron Scepter, tu avais vraiment besoin du Fire Ice pour pouvoir gérer les petites créatures, puis en même temps taper, puis j'ai des cartes.
Ouais.
Que ça, c'était le deck, ça, c'était les du monde d'Europe. C'est les Deutsch, les Hollandais qui étaient sortis avec cette decklist-là.
Okay.
Mais on me l'avait donné. C'était mon ami David Root qui m'avait dit « Ah, on a une decklist, là, je peux te la partager. » Ça l'a bien été quand même. C'était toute une expérience.
Ton plus gros Psychatog, tu t'en rappelles-tu?
Excuse-moi?
Ton plus gros Psychatog que tu as réussi à faire, t'en rappelles-tu?
Disons que habituellement quand tu y vas pour 20, là, c'était pas mal le but du deck. Là. Quand t'as dit tu piges, tu comptes, puis à un moment donné, tu essaies d'aller pour une attaque avec ton Psychatog pour tuer d'une chatte.
T'as-tu un cycle-tu ton graveyard dans cette version-là?
Cycle, t'as l'upheaval. Que t'avais l'upheaval qui était vraiment le combo à deux cartes.
Tout dans ta main. Incluant les lanes, ouais.
Tu retournes, tu mets ton land, tu casses ton psychatogue, puis là, tu discartes. Là, le tour d'après, habituellement, c'est tout le temps lethal.
T'envoies toutes les. Dans le fond, tu ramènes toutes les lanes dans ta main, puis tu discartes pour grossir ton psychatogue. C'est vraiment cool.
C'est ça. All right. Okay. Il y avait ce deck-là qui avait été quand même assez cool. Je voulais vous montrer aussi celui-là, que j'avais gagné le Provincial Championship. Que lui aussi, ça avait été un petit peu un brew, là, puis vous aviez parlé tantôt de mes
avantages. Eh oui, c'est Dark Effect.
Ça peut être un problème pour moi, là. J'ai bien aimé ça, cette carte.
Ça, c'est un deck de
rat. Il en met quatre.
Deck de c'est rat, les c'est Chittering Rats, ouais, qui fait
du. Les Chittering Rats, les Ravenous Rats, même le gros Big Papa, là, Inkai. Tiens, qu'on avait vraiment tous les rats là-dedans, là.
Un deck de rat avec des Umejawa JT, c'est drôle.
Des Vial, des Jid, des Persecute, puis des Sword pour pouvoir péter les decks de Mirror Match, là, que ça avait. J'avais fait 6-0-2, je pense, que ça avait été quand
ça,
même.
Ça, c'est première place au régional, c'est toi, ça?
Ouais, c'est ça. J'avais gagné cette fois-là.
C'était où ce tournoi-là?
C'était en 2005.
Mais c'était où?
C'était à Montréal. Le championnat régional, là, que ça avait été une belle expérience. Celui-là aussi, c'était un de mes brews là, que j'avais vraiment sorti. Il y avait eu des idées qui étaient sorties. Puis là, mais tu sais, le vrai combo, c'est le Chittering Rat ici. Puis là, tu avais ce bonhomme-là qu'à chaque tour, tu dois ramener une créature dans tes mains.
Ah, oh, puis là, tu le ressortais.
Que là, tu mettais le vial à 3.
Est-ce qu'il fait le Chittering Rat, c'est qu'il fait discarter?
Non, il remet la carte sur le top.
Ouais.
J'en
ai un dans mon deck de
reset. Dessus du deck que tu faisais genre, OK, je le retourne dans mes mains, je te remets ta carte dessus, puis l'autre, s'il n'était pas capable de se débarrasser de sa carte, il était locké.
Il est tout en train de piger la même affaire. Ouais, c'est cool.
J'en ai un dans mon deck de reset, puis j'ai l'enchantement bleu qui fait qu'à chaque tour, tu crées une copie du monstre, fait que ça revenait un petit peu à la même affaire. Là. C'est mon deck de reset avec un Isochron Scepter, puis les Transformation. Fait que souvent, quand je gagne, le gars, il n'a plus de cartes dans sa main, il n'a plus de cartes en avant de lui, il y en a quelques-unes dans son graveyard. Puis c'est tout sur son library. Je joue pas souvent avec. Les gens, ils ne l'aiment pas beaucoup.
All right. Je vais vous en sortir encore une ou deux histoires. Là, puis après, ça va être ça. Ça, c'était quoi? Ah ouais, on va aller chercher celui-là. Celui-là, c'était à Détroit que j'avais joué ce deck-là. Que c'était un deck de gobelins qui était dans le temps d'Onslaught, là, qui était vraiment mon année. Moi, c'était mon année de gloire. Là. Le temps d'Onslaught, là, top 16 au Grand Prix. J'avais gagné 2 PTQ. J'avais été joué à Nouvelle-Orléans. Là, que ça a été vraiment mon. C'était le tournoi que j'avais gagné dans cette saison-là pour aller à Nouvelle-Orléans. Là, que c'était vraiment mon breakthrough year. Là, ça a été vraiment gros. Que lui, c'était un deck de gobelins. Bien de base, là, avec tous les gobelins qu'il y avait dans ce set-là. Là, les Sparksmith, les Goblin Pass Driver. Les Rorix, c'est des gros dragons ace là, pour pouvoir attaquer l'autre de 6 dans les airs. Donc,
c'est surtout le Siege Gang Commander qui est le fun avec lui. Là.
Ouais, 4 Siege Gang, des Jetform Incinerator. Ça avait été un deck, ah oui, puis la tech de toutes les techs, c'était le gobelin Pyromancer.
Ah oui, lui, il est cool.
Et 4 à caster, 2-2, quand il arrive en jeu, tous les gobelins gagnent +3/+0, puis à la fin du tour, tous les gobelins crèvent. Et le but, c'était pas juste que booster ton deck, c'était dans le mirror match. Ouais. Qu'en plus de faire plein de dégâts, tu le casses puis tu pètes tous les gobelins de l'autre d'une shot. Que cette journée-là, j'avais joué contre des decks de gobelins toute la journée.
En plus,
j'avais le gobelin pyromancien qui arrivait, qui faisait j'attaquais avec mon gobelin War Chief, je mettais tous mes gobelins Ace, j'attaquais de 15 ou de 20, puis après ça, tous les gobelins pétaient.
Fait que les siens aussi. Hey,
ça, c'était toute une carte quand même.
Il y a encore la face de. Oh, ouais, c'est bon ça, la face du vainqueur de Martin-Éric Gauthier Sanguinaire, là.
Ouais,
c'est ça.
Dans le temps qu'on était méchants.
Ben, c'est cool aussi parce que tu nous as montré un deck de tournoi à thématique rat, tu nous as montré un deck de tournoi à thématique gobelin. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça se tient. C'est comme plus harmonieux, genre.
Ça, c'est mon tournoi que j'ai gagné cette année, que j'ai gagné le championnat de Magic Online. J'ai fait un beau 20 000 $ avec ça, là, que ça a été assez payant. Ça,
c'est un cube, right?
Excuse-moi?
C'était un cube, ça.
Ouais, ça c'était Cube Draft. Que cette histoire-là, ça, je sais pas si je suis posé de compter ça, là, mais ça aussi c'est une anecdote. Que si je vais vous montrer le deck que je m'avais qualifié avec. J'avais gagné un sealed deck, j'étais arrivé premier, puis je m'avais qualifié un tournoi à 8 personnes. Okay. Puis là, le minimum que je pouvais faire, c'était 5 000, puis le maximum, c'était 20 000. Que tu sais, déjà, ta journée, elle est pas pire, là.
Ça va bien.
Puis là, la journée commence, puis on draftait Cube. Puis là, j'ouvre mon premier pack, puis j'ouvre un Soul Ring, puis un Mox Rouge.
Oh.
Là, je suis comme, je sais pas trop. Finalement, j'avais pris le Soul Ring. Bon que choix. Là, le draft.
C'est un bon dilemme, ça?
Ouais, ouais, c'est le monde, ils disent, moi, c'est comme pas mal égal, c'est ça. C'est ou Sol Ring, Team Sol Ring ou Team Mox Rouge, ça dépend, tu sais. Mais habituellement, moi, j'ai toujours été un joueur de cube qui aime ça jouer mono rouge. C'est vraiment mon archétype. Mais cette fois-là, comme j'avais pas pris le Mox Rouge, j'avais pas joué rouge. Que là, le draft, tu sais, j'ai un genre de deck d'artefacts bizarre, pas très, très bon. Puis là, rendu au milieu du draft, ça ferme. Puis là, on se fait annoncer, on recommence le draft, les gars.
Quoi?
Au milieu du draft. Ils nous annoncent ça, là, désolé, on n'a pas enregistré le draft, faut recommencer le draft.
Puis là, il y a shuffle.
Hein, que là, cette fois-là, j'ai fait, non, cette fois-là, là, je me ferai pas avoir une deuxième fois. Je vais faire la stratégie que je connais le plus, puis je vais jouer mono rouge. Burn. Tu sais, tu veux vraiment un deck avec des petite créature qui sort super vite avec les bons burns. C'est vraiment un deck là, super agressif.
Il n'y a pas grand-chose en haut de toi là-dedans. Là.
Non, c'est ça. C'est à part un Hellrider que lui, c'est ta grosse powerhouse ou Azoreth aussi qui peut être le gars qui va finir ta game. Mais à part de ça, là, tu y vas avec des un drop, des deux drops, puis tu y vas super rapidement. Puis j'avais eu, dans mon troisième paquet, j'avais ouvert le Time Walk.
Oh.
Tu sais, moi, je connais que, puis je me suis dit, je vais m'arranger. J'avais pris un land bleu-rouge dans mon premier paquet, puis j'ai fait, tu sais, si je joue Ancestral Recall ou si je joue Time Walk, tu gardes tes options ouvertes.
Ouais.
Là, j'ai ouvert le Time Walk, puis là, j'ai quand même réussi à voir, tu sais, les lands pour le caster. C'est ça, tu splashes une carte bleue, puis là, t'as un land, deux lands, trois lands, cinq lands, plus le Magda que quand il tape, il fait du mana. C'est ça, tu sais, t'as juste assez pour dire que tu splashes une carte bleue puis tu joues six sources de bleu juste pour une carte. Que,
ton ouais, c'est pas payé ça, juste pour ton time walk, mais c'est tellement un gros edge que tu es capable de la caster. Là.
Que c'est ça, que ce tournoi-là, j'ai fait 3-0 avec ce deck-là, ça m'a amené en finale, puis là, je joue une game de moderne pour 20 000 puis,
ça, c'est ton deck d'Eliot Gain Life. Là.
Ouais, ouais, le deck d'Eliot, c'est ça.
C'est pas toi qui as créé cet archétype-là?
Non. Le deck d'Eliod, c'était vraiment la semaine que le deck avait vraiment bien fait. Là, il avait eu une bonne fin de semaine, là, que le deck avait sorti super fort. Puis là, j'ai fait OK, c'est bon. J'avais vraiment testé beaucoup avant le deck de Hammer Time, qui était vraiment le gros deck à ce moment-là. Mais le deck d'Eliod, il y avait vraiment l'edge. Là, que j'ai fait non, OK. Le deck d'Eliod, il y a de la bombe. Puis je l'ai tuné un peu, puis je l'ai pratiqué. Puis la peur que tu as quand tu joues ce genre de deck-là, c'est que tu sais, en vraie vie, tu peux dire « je fais vie infinie ». Mais tu sais, sur Magic Online, il faut que tu cliques en tabarnak pour faire des vies. Puis là, tu as le stress de combien de fois je peux cliquer. Sur ma pratique, là, je pouvais me rendre à 300 vies environ. Ça prenait environ 5 minutes pour 300 vies. Cliquer comme un intense. Là,
mais il y a un timer, hein?
Puis t'as 25 minutes pour jouer ton match-up. Là, que t'es mieux d'avoir la clique rapide ouais, là, parce que c'est stressant en crise.
Un petit rappel, Eliod, c'est à chaque fois que tu gagnes une vie, tu mets un counter +1/+1 sur une de tes créatures. Puis tout le deck est fait pour gagner de la vie. Fait que...
OK, je vous en sors deux autres. Là. Je vais vous montrer mon gros seal deck de Double Master que j'avais été bien fier. Là, celle-là, il avait crissement bien été. Que le truc, c'est. On aime ça jouer des rares, on s'entend. Mais le truc, c'est quand tu ouvres deux rares par paquet, ça va bien dans ce temps-là parce que tu peux en jouer encore plus de rares. Puis là, j'avais ouvert, ça, c'était mon seal deck. Qu'on peut voir ici, Double Master, on avait Walking Ballista, on avait Karn, on avait Duplicant, on avait Wrath of God, on avait Ensnaring Bridge, on avait Master of Ethereum, Grand Arbiter... On avait vraiment tout ce qu'on a besoin pour un deck. Là,
bleu, blanc, artefact.
C'est ça, bleu, blanc, artefact. Puis dans la finale de ce draft-là, imaginez-vous pas qu'est-ce qui s'est passé. Je draft, tu sais, moi, mon archétype, quand je ne sais pas trop quoi drafter, je draft des rares. Tu draftes des rares, c'est jamais un mauvais choix. Puis là, j'avais drafté un deck qui n'était pas pire. Puis là, attendez un instant... Je me fais passer quoi, vous pensez, man? T'sais, je viens d'avoir une bonne journée, là. Mon deck, ça l'a bien été mon seal deck. Puis regardez bien ça. Je me suis fait passer 3e pick, Karn Liberated, once Whoa. Again.
Fait que deux Karn.
Ouais, que j'avais... C'est ça, que c'était ma journée, mon seal deck, ça avait été All About Karn. Puis là, tu te fais passer en draft. Le gars, il avait pris deux cartes. Parce que Double Master, c'est que tu prenais deux picks dans ton premier pack. Puis le gars, il m'a passé un Karn Liberated. Puis ça, j'en reviens toujours pas parce que la puissance de cette carte-là, là, vraiment, il faut vraiment que tu veuilles vraiment jouer agressif. Là. Tu dis, je peux pas rendre à cette lane parce que quand cette carte-là, elle tombe sur le board, là, ça fait mal à la crise. Puis encore là, si tu regardes le deck de draft, j'avais un gros dragon, comment il s'appelle lui? Cartus. Un gros dragon qui vole les dragons de l'autre. On s'en fout, c'est une 7-7 Ace, je pense.
Oui, Ace. Yes.
Ouais. Puis j'avais Maelstrom Pulse, j'avais le Maze of It. Que ça, là, c'était vraiment la carte. Le Maze of It, c'est une carte.
Ah ouais, c'est très bon.
Tabarnak, là, tu sais.
Ouais, très bon.
Encore là, un deck avec plein de bombes, plein de rares, Toxic Déluge pour clear le board, tu sais. Que c'est ça, tu sais. Quand le monde, il te passe les rares puis t'es prends, là, en sur deck, habituellement, c'est bon signe. Que c'est ça. C'est, j'ai eu, tu sais, comme ça, des fois, tu sais, je suis pas le gros joueur compétitif qui va aller au proto toutes les années puis que ça va tout le temps rouler puis que ça va aller toujours bien. Mais de temps en temps, je suis capable de faire un one-timer puis d'aller de gagner un tournoi important là, puis faire ma petite
passe. Mais t'as l'air surtout, moi c'est pour ça que je t'avais invité, hein, c'est que parce que on tu sais comme on a, l'année passée on avait eu Christopher Léonard qui est un peu plus tu sais comme débutant puis qui a fait quand même des gros scores l'année passée en 2020.
Ouais.
Moi quand j'ai vu ton nom, tu sais parce que je cherchais des pro players québécois puis moi ce que j'avais remarqué c'était ta consistance, tu sais t'as tout le temps été là, t'es à toutes faites.
Ouais,
t'as jamais lâché, c'est ça qui est impressionnant plus que mettons que t'as regagné une fois dans ta vie un pro tour puis que t'as jamais joué à Magic après là, tu sais. C'est quoi la pire place que t'as joué à Magic? Comme le pire store ou lieu de tournoi.
J'ai la pire ville pour toi, man. La pire ville, définitivement, c'est Détroit. Là. Détroit, c'est vraiment le trou de cul du monde. Là. C'est quand que tu te dis là, que tu as vraiment vu le pire, là, vraiment Détroit, pas où ce qu'on jouait, mais juste le Airbnb qu'on avait pogné. Là, on était vraiment, tu sais, t'arrives, puis c'est toutes des maisons placardées, puis c'est comme, ah, ça fait peur. Là. Tu te promènes pas là la nuit. Là,
t'as dormi avec ton deck, là.
Ouais, c'est ça, non, c'est quand même de quoi, là, comme, c'est ça, le Détroit downtown, là, tu sais, t'es à comme 5 minutes d'auto de downtown Détroit, là, pis c'est le trou complet, là. Sinon, aussi, un autre que j'ai pas aimé, c'est le New Jersey. Le New Jersey aussi, là, tu sais, j'avais été même chose, tu sais, tu pognes un Airbnb, pis j'avais eu des mauvaises histoires là-bas, là, tu sais, c'est...
Ouais, c'est sketch.
C'est ça, des fois, tu tombes sur des voyages qui sont super intéressants, pis que t'essaies des belles places à aller visiter, pis des fois, tu tombes sur des places que c'est vraiment... c'est ça, là, tu sais, tu vas jouer au Magic, t'es content de décalisser de le plus rapidement possible.
Oui, j'ai un ami qui est allé à Détroit, pis c'est un fan de post-apocalyptique, il m'a dit que c'est la place qu'il a vue dans le monde qui ressemblait le plus à un film post-apocalyptique.
D'accord.
Ben écoute, je pense qu'on est rendu à la fin de l'émission. Hein? Merci beaucoup, right, Martin. Cool. Martin-Éric Gauthier, t'es-tu comme présent en ligne? On peut-tu
non, moi, je suis un gars qui est un loner. Là, à part,
il est analogue.
Je joue mon Magic. Je joue un petit peu sur Magic Online. Que je m'appelle Meg sur Magic Online. Je m'appelle Meg sur Magic Arena. Puis sinon, Twitter et tout ça, je touche pas vraiment à ça, mais... C'est sûr que si vous y jouez un petit peu sur la scène compétitive, là, puis quand les gros tournois vont recommencer à sortir, c'est sûr que je vais être là, comme toujours.
Bon, ben parfait. On ira t'achaler pour une entrevue dans ce temps-là aussi. Merci, Jason, pour l'émission. Merci, Nonours, de t'être tenu tranquille. Et merci, vous, chers auditeurs, d'être passés au travers de ça avec nous. Quoi qui va se passer? Oui, je vais vous inviter à aller sur Spotify parce que le show est disponible là. Je me sens mal.
Notre YouTube.
Ouais, oui, on est aussi sur YouTube. Sinon, ben, je pense que ça nous amène au bout. Hein. Mon nom est Tommy Godette et je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrew possible.
C'est ça l'important. All right, bye tout le monde. Merci beaucoup. À la prochaine.
Salut!
De la famille H2O Web Media.